pour une poignée de gamers, le podcast.
Salut et bienvenue dans l'actu PPG de la semaine 10, saison 6, ici Gab, et aujourd'hui, pour m'accompagner, deux chroniqueurs, et non des moindres, puisque j'ai parmi nous Sagaz. Salut Sagaz, comment ça va ?
Salut, bah, ça va nickel, et toi ?
Oh, bien, deux semaines qui sont de vacances, donc voilà, bien
la
reposé.
Folie.
La folie, exactement. Et de l'autre côté, l'indétrônable est celui qui tient la baraque, il s'agit bien sûr de Rolling. Salut Rolling.
Et bonsoir tout le monde, et oui, je suis en vacances moi aussi, ça fait du bien.
Bah, cette semaine, grosse actu, très grosse actu, puisqu'il y a eu beaucoup d'événements ces deux dernières semaines. On va revenir un petit peu sur le Nintendo Direct, sur un petit Pokémon Present. Également sur la mouvance actuelle du jeu vidéo, sur lequel surfent tous les studios. Il s'agit bien sûr des licenciements. Et pour finir, on va faire un petit point Apple Arcade, puisque on a appris quelques petites choses sur l'offre d'Apple ces derniers temps. Côté rumeurs, on a quelques petites rumeurs à vous partager. Puis on finira avec l'actu en vrac et la sortie des chroniqueurs. C'est parti.
Pour une poignée de gamers, le podcast.
La grosse actu, bah écoute, vas-y Rolling, hein, je sais que t'es notre prévert qui nous fait salir
au début j'étais très content quand ça a ouvert, parce qu'il y a 15 jours, souvenez-vous, on parlait des jeux Xbox qu'à l'arrivée sur les plateformes Nintendo et Sony. 4 jeux dont on ne connaissait pas le nom. Et on avait fait des pronostics. Et dans ces pronostics, j'avais dit, je penserais bien qu'ils pourraient mettre sur Switch Grounded. Non, c'est pas un jeu assez bankable, ils feront jamais ça. Bon, bah, si vous le dites. Le Nintendo Direct Partner Showcase ouvre, premier jeu, Grounded. Je dis, victoire, le 16 mars 2024,
donc, note Grounded à nous-mêmes, va arriver. Demandez les numéros du loto à Rolling.
Voilà, exactement. Quand t'as les trucs qui s'alignent comme ça, là, surtout sur un grand deed qui sort de nulle part, je pense que tu peux jouer.
Ouais, tu sais, il était sorti Day One dans le Game Pass, j'ai joué un petit peu. Bon, c'est pas mon style, mais en coop, c'est un jeu qui fonctionne bien. C'est assez sympa. Donc, sur Switch, à voir ce que ça donnait. Mais,
ceci dit, c'est effectivement une surprise, et en même temps pas trop, quand on regarde bien, puisqu'ils ont finalement édité tous les jeux édités par ce studio-là qui a fait Outer World, pas Outer Wilds, mais Outer World, qui avait déjà été édité sur les autres plateformes. C'est un peu la continuité de ce qu'ils avaient fait avec cet éditeur. Cherche son nom, mince, pas Niantic, mais aidez-moi, messieurs.
Le studio qui a fait Grounded.
Obsidian, voilà. Merci. Donc oui, là, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont continué et ils ont sorti les deux derniers jeux d'Obsidian qui n'étaient pas sortis sur les plateformes concurrentes, sachant que jusqu'à présent, ils les sortaient. Voilà, je ne sais pas si ça peut être... si c'est pas plutôt dans une volonté de continuité de ce qu'ils faisaient déjà avec les jeux Obsidian, ou si c'est vraiment dans l'optique d'ouvrir leur catalogue et leurs grosses IP sur les autres plateformes. Pour l'instant, ils n'ont pas proposé de grosses IP hormis ces deux jeux-là. Et
Grounded, c'est pas énorme, comme non plus.
Oui, et puis c'est Hi-Fi Rush, donc c'est un bon jeu, mais c'était pas non plus un de leurs gros joyaux, de leur catalogue, en tout cas, à Microsoft.
D'ailleurs, Hi-Fi Rush, qui va arriver sur PS5, si j'ai pas de bêtises, en parallèle, pas sur Switch. J'aurais pensé qu'il arrivait sur Switch aussi, mais ça n'a pas été dit. Enfin, j'ai pas vu passer ça, dis-moi.
Ah bah pardon, écoute, désolé, j'étais convaincu qu'il sortait sur Switch, mais effectivement, ça n'était pas annoncé.
Je vais fact-checker ça.
Non,
mais oui, sinon, qu'est-ce que vous avez vu d'autre sur ce Nintendo Direct Partner Showcase ?
Rien, c'était nul.
c'était fou, oui.
Non, il y avait quand même trois petits trucs, je vais mettre de la nuance, même si effectivement, c'était pas fou. Beaucoup de choses attendues et d'autres choses complètement aux F. Mais il y avait quand même Unicorn Overlord, le prochain jeu de Vanillaware qui sort le 8 mars prochain, sur toutes les plateformes d'ailleurs, pas que sur Switch, qui a remontré quelques images et qui, à la suite de ce Nintendo Direct, proposait une démo sur la Switch que je me suis empressé d'installer, évidemment. Donc voilà, c'était une bonne surprise. Pas une bonne surprise. C'était une bonne surprise d'avoir la démo après le Nintendo
Direct. Oui, complètement.
Ensuite, il y a eu le reveal d'un jeu passé qui n'a pas eu le succès, je pense, escompté à son époque. C'était Monster Hunter Stories Remaster, qui arrive donc sur Switch. Un jeu donc, qui est sorti sur la fin de vie de la 3DS. Un JRPG tour par tour avec des monstres de Monster Hunter. Et puis, il y a un DLC pour Shin Megami Tensei 5, Vengeance, dont je n'attends pas forcément grand-chose, puisque j'ai toujours pas fini le 5 originel. Mais pour ceux... Je sais que le jeu a quand même eu un certain succès d'estime. Donc, je pense que ça fera plaisir à pas mal de personnes qui en voulaient peut-être plus.
Ouais, complètement. Après, pour ceux qui sont fans de licence, dont moi, j'étais quand même content de voir Sword Art Online Fractured Daydream, qui va arriver cet automne sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. Les jeux Sword Art Online, c'est toujours une assez... Bah, à part certains, mais Gun Guide était très bien, le dernier Alicization était bien aussi. Quand on est fan de la licence, c'est des bonnes adaptations, ça fonctionne bien. Donc, ouais, je le garde... je le surveille celui-là. Je dis automne 2024, mais non, il n'y a pas de date. Ce sera cette année, c'est sûr. Donc, ouais, ce soir Sword Art Online, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu World of Goo 2 qui s'est montré. Pourquoi pas? Le gameplay du jeu, à la base, moi, le premier, j'avais bien aimé. Sur Switch, mode portable, ça peut être bien efficace. Donc, pourquoi pas?
Je vais nommer aussi rapidement Fantasy Life I, la veuse du temps. Alors je n'en attends pas grand chose parce que c'est un jeu où je me demande toujours vers où va Level 5, mais par contre c'est vrai que le jeu original qui était sorti à l'époque sur la 3DS, j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé vraiment très, très sympa le Fantasy Life d'origine. Là j'ai plutôt l'impression qu'ils ont fait un jeu mobile un peu creux, un peu vite par rapport au jeu original, donc je lui laisserai peut-être sa chance en voyant ce qu'ils m'ont proposé. Mais l'île a l'air vraiment petite.
Ouais, avec à voir un peu. Ça sort le 10 octobre 2024 sur Switch uniquement. Mmh. Bon, à voir.
Le Fantasy Life de l'époque était vraiment très chouette. Hein. S'il avait jamais joué.
Non, j'ai pas joué au jeu de base. Donc, ouais, je dirais c'est plus près. Après, il y a d'autres jeux, celui qui aura passé rapidement. Enfin, même pas passé d'ailleurs.
South Park.
Ouais, il y a eu South Park. C'était quoi le nom déjà?
Snow Day.
Bon.
Qui m'intéresse.
Ah oui. Tiens.
Tant mieux. J'avais fait c'était quoi, le bâton de la vérité et l'anal du destin.
L'anal du destin était
franchement
bien.
De super jeux.
Là, je sais pas, celui-là, bon genre, pas trop. Ouais.
C'est plus curiosité. Je l'attends pas, mais c'est curiosité.
On a revu du Super Monkey Ball Banana Rainbow qui sort ce 25 juin. Bon, moi j'étais fan de la licence au début, à ses débuts, je trouve ça très efficace. Après, je trouve que ça s'est mal renouvelé. Faut voir un peu ce qu'ils ont proposé sur ce Banana Rumble. Pas trop. Ça sort le 25 juin 2024. Et à la fin, il y a un truc qui dit « Ah, restez là, encore une dernière chose. Grosse annonce. » Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre comme jeu en One More Thing? Et là, ils nous ont pondu... Endless Ocean Luminous. Bon, ça sort le 2 mai 2024, donc c'est très proche. Un jeu d'exploration sous-marine. Comment dire, j'étais un petit peu déçu que ça ferme sur ça.
Après, ça, tu vois, c'est un jeu qu'on découvre, dont on n'attend absolument rien. C'est vrai qu'il est. Je trouve que la présentation n'a pas forcément donné hyper envie.
Si vous mettez en fermeture, c'est quasi croix. Hein.
Je connaissais pas la licence. Est-ce que ça serait pas une future pépite inattendue, tu vois?
À voir un petit peu. Mais bon, voilà, ce Nintendo Direct,
on va pas trop... C'est étrange qu'ils le mettent comme ça, enfin, et qu'ils...
Mais oui, c'est qu'ils doivent y croire.
Alors que, ouais.
Ouais, voilà, ce Nintendo Direct, un petit peu... Bon, c'est un peu ce qu'on disait pour la Switch,
c'était pas la folie.
Un petit peu en roue libre cette année, hein, malheureusement. Il n'y a pas de gros jeux d'annoncés, enfin là c'est un peu Return Showcase, donc forcément. Mais bon, on sent que ça tire sur la Switch et que normalement, il faudrait passer à autre chose et laisser ce direct-là.
Après, tu dis ça, mais peut-être que Nintendo va faire des annonces pour la fin de, enfin, le milieu d'année et la fin d'année. Hein.
Pour la fin de vie de la console.
Bah, non, parce que là, des rumeurs, là, les dernières rumeurs autour de la future Switch 2, s'il s'agit bien d'une Switch 2 d'ailleurs. Ce ne sera pas de façon avant le printemps 2025.
Donc, il y a des rumeurs là-dessus par rapport au stock.
C'est pas des rumeurs, là. C'est pas du tout des rumeurs. Ce que j'ai vu, Nintendo a pris la parole, je ne sais plus dans quel cas, où ils ont expliqué que là, c'était une question d'avoir des stocks pour la sortie de la console. C'est que pour l'instant, ils ne peuvent pas sortir de nouvelles consoles tant qu'ils n'ont pas de stock suffisant. Parce que derrière, c'est bien beau d'avoir des consoles, mais s'ils peuvent pas écouler le jeu parce qu'il n'y a personne qui peut acheter la console, ça n'a aucun intérêt. Donc,
c'est ce qu'on disait sur la dernière actu, en fait. S'ils sortent ça à Noël, ça va être la guerre. Alors que s'ils prennent le temps au printemps, ça pourrait être plus cool et ils peuvent écouler les stocks après un peu plus tranquillement. Il y aura de l'engouement, mais peut-être un peu moins qu'à Noël.
Et puis, ça, avoir aussi un nombre de consoles mis sur le marché assez important dès le début, bah, ça incite les éditeurs tiers à proposer leurs jeux dessus aussi. Donc, là, c'est, alors je sais plus, là, j'ai pas l'article devant les yeux, mais c'est un truc très, enfin voilà, sûr et pas, c'était pas de la rumeur. Le printemps 2025, c'est acté. Hein, c'est, il y aura pas de présentation avant l'année prochaine pour une future Switch 2. Ou alors peut-être en fin d'année 2024, mais. Avant même parler de présentation, là il faut parler de ce que va faire Nintendo cette année. Je pense qu'il y aura des jeux sur la Switch, faut pas s'inquiéter. Je vois même Nintendo ne pas proposer de leurs jeux pour cette année.
Très grand temps.
Ah, mais je vois pas quelle grosse cartouche ils pourraient nous sortir encore.
Eh ben, laissez-nous faire, on verra. Il y a pas de. Qu'est-ce qui peut sortir?
Oui, Tensi. Ouais.
La Metroid.
Ouais, Metroid, ouais. 2 et 3 remastered.
Oui, déjà.
Et 4 pour la Switch 2.
Après du 4. Donc ouais, ce partner showcase. Bon, vous en êtes ressorti comment? Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement parlant?
Je l'avais oublié pour tout dire.
C'était peut-être
ça qu'il faut retenir. Il était oubliable, mais je pense qu'il y avait comme quelques petites annonces à glaner par-ci par-là, qui n'étaient pas forcément des grandes annonces.
Surtout qu'une heure après, il y a eu quelque chose d'incroyable.
Si je sympa.
Bah oui, pour ainsi dire, au même moment, il y a eu quelque chose d'incroyable. Ce n'est qu'un DLC.
Rendez-vous au début de l'actu en vrac pour
voilà.
Cela.
C'est moche. Ouais.
Mais non, moi, j'ai pas trop... J'étais content de voir Unicorn et Overlord, la démo qui arrivait. J'étais content de voir Grounded pour dire « Hey, j'avais raison ». Mais sinon, non, c'était pas foufou.
C'est pas la folie. Bien, tant qu'on est chez Nintendo, est-ce qu'on parle un peu du Pokémon Presents?
Oh, oui.
Je vais laisser la parole à Sagaz, puisque Sagaz est notre spécialiste Pokémon.
Ah, c'est toi notre raid à nous.
C'est vrai, c'est bon. Je sais pas, après ça fait un peu trop prétentieux, mais... Bah écoute,
notre dresseur ultime. Mais ils ont annoncé les nouveaux. Enfin, les nouveaux, un nouveau Pokémon.
Pokémon Sleep et Café Remix.
Ouais, non, slip. Apprenez à faire dodo.
ZDI, donc la 10G, parle-nous un petit peu, ouais.
Mais c'est pas la 10G, vous êtes pas bien.
Non, c'est pas
la... ce qui nous a été présenté, donc c'est Legend of Pokémon ZA. Donc, déjà, le nom, c'est Legend Pokémon.
Oui, oui.
Donc le dernier, c'était Legend Arceus, donc je pense que c'est quelque chose qui va...
Qui sera mieux.
Oui, c'est... Non, qui sera pas forcément mieux, mais qui va...
Oh, il était pas si mal, Arceus.
De l'offre de jeu d'Arceus. Donc avec sûrement quelque chose de moins tour par tour, plus temps réel, voilà, comme on a pu avoir avec Arceus. Mais ça se passera dans le monde de Pokémon X et Y, avec qui l'avait dit Lumis.
Donc de la 6G.
Alors, 6G peut-être, mais on peut... Enfin, je pense que généralement, ils font pas l'impasse sur les nouveaux Pokémon. Hein, il n'est pas rare de voir...
Non, ils ne reviendraient pas en arrière comme ça depuis plusieurs générations.
Voilà, avec
ou alors des versions régionales de certains Pokémon, comme ils ont pu faire sur et Bouclier ou autre. Et puis oui, cette 6G, du coup, on a vu la ville Illumis, hein, c'est ça qui a été montrée.
Oui.
Et à la toute fin du trailer, on a une petite.
C'est pas, c'est pas été dit nulle part.
À la fin, on a un petit, une image qui. La, le trailer finit, et on a une image qui apparaît et qui disparaît. Et cette image qui apparaît, c'est l'image de la méga évolution, qui était une des mécaniques de la 6G pour faire méga évoluer
oui,
ses Pokémon.
Mais alors, du coup, on aura peut-être
donc encore
méga évolution dans Legend, donc ce qui pourrait être super sympa. Mais moi, je suis convaincu qu'on va récupérer des Pokémon qu'on a vus dans la 9G, dans la 8G, dans la 7G, dans ce Pokémon. Hein. C'est pas impossible non plus. Bah, vraiment, tu vois, là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de jeu Pokémon.
Canonique.
Jeu Pokémon, ouais, canonique. Arceus, ça va faire 2 ans et demi. Donc, c'est plutôt bon, parce qu'ils sont, ils sont laissés un peu de temps pour.
J'espère pour eux, ouais.
Et surtout que le jeu sort pas avant 2025, donc ça en laisse même. Je crois que c'est la plus longue période sans jeu majeur Pokémon.
Ouais, clairement. Et puis, tu dis, tu parlais d'autres Pokémon, moi je vois ZA, en alphabet, hein, du début à la fin, du A au Z. Est-ce qu'ils vont monter Pokémon de la première G, de la 9G, faire un mix ? Comment ils vont faire ? Mais ce ZA, moi, m'intrigue beaucoup sur le terme début et fin.
Ouais.
Après le Z, ouais, je pense que c'est la suite de X et Y, enfin le monde de X et Y, mais comme a dit Gab, tu peux partir sur une base de 6G, mais après tu peux faire ce que tu veux en fait. Et c'est qui est sympa.
Tu fais X, Y, Z puis A, donc tu finis le X, Y et tu recommences après.
Dans X, Y, si tu avais joué, tu saurais que le Z ça correspond à Zigzal, qui est un Pokémon légendaire qu'on peut avoir dans la. À la fin de Pokémon X et Y. Donc ça, c'est le Z de Zigzal. Donc j'imagine qu'il va y avoir un truc autour de ce Pokémon-là.
Zigzal, c'est un médicament aussi.
Et oui, bah, peut-être aussi. Pour le cholestérol, imaginons.
Alors, c'est
pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais ce qui est certain, c'est que... Tiens, et d'ailleurs, ça répond aussi à la question qu'est-ce que Nintendo va nous proposer comme cartouche encore sur la Switch ? Ben, on a encore celle-ci. Donc, la Switch est loin d'être morte. Hein.
Non, il reste 2-3 cartouches encore, c'est pas faux. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, il reste quoi ? Il nous reste peut-être un Metroid ? Peut-être aussi notre Pokémon ?
Ah, Zero.
Pas trop, quoi. Oui,
c'est Zygarde, hein, c'est ça.
On l'a pas vu.
Zygarde le serpent.
Je dis quoi, Zigzal ? Ouais, c'était Zygarde, ouais. Tu vois, je.
Mais ouais, cette nouvelle. Puis le trailer était sympa, bien amené. Alors, on n'a pas vu du tout de gameplay hein, sur ce trailer. C'est que de la CGI. Mais bon, il y a quelques indices. On a vu quelques Pokémon apparaître. Cette ville qui est apparue. Ces locaux de méga évolution. Bon, je pense que dans l'année, là, ils vont nous en reparler pour la fin d'année, j'imagine, pour donner quelques petits indices. Mais. Ouais, bah c'est un Pokémon, hein. Moi je suis toujours assez intéressé, malgré que Écarlate et Violet et puis Arceus, pour moi c'était pas du tout des réussites, mais j'ai toujours...
Ah si, ils étaient pas si mauvais que ça, et franchement, Arceus, le principe était sympa, mais le jeu était vraiment moche.
Ouais, puis au-dessus, moi j'en ai...
Craché des textures dégueulasses à la figure, c'est certain. Puis le jeu était vide, hein. Les autres zones étaient trop fermées. Autant, tu vois, le Pokémon vert, écarlate et je sais plus quoi, je l'avais trouvé très sympa.
Écarlate et violet, ouais.
Ouais, je les ai trouvés très sympas. Même si c'était très moche et techniquement à la ramasse totale, j'ai passé un bon moment dessus, malgré tous ces défauts techniques.
Donc, ouais, ce ZA, on en entend beaucoup, mais on n'a pas vu que ça pendant ce Pokémon Presents. Moi, ce que j'ai retenu, clopant en parlant, c'est le jeu de cartes. Jeu de cartes qui arrive sur mobile, c'est quand ? C'est fin d'année ? Quoi les dates, messieurs ?
Courant 2024, pardon.
Donc, Pokémon, c'est avant tout aussi un jeu de cartes très réputé. Et là, ils ont montré un trailer d'un jeu de cartes free-to-play, j'imagine. Ils l'ont pas dit, mais ça y ressemble beaucoup sur mobile. Où on ouvre des boosters tous les jours, avec des quêtes quotidiennes, enfin tout le tralala, mais surtout au-dessus de ça, c'est qu'on collecte des cartes, on fait des échanges, et on peut faire des combats de cartes en version normale, mais aussi, moi ce qui m'a intéressé, il y a des versions rapides, pour faire des parties rapides dans la journée, à voir à quoi ça ressemblait, Moi, je trouve que sur mobile, c'est bien adapté. J'attends de voir quand ça va arriver, mais je garde du coin de l'œil celui-là. Je me dis, il y a un potentiel sympathique là, s'il faut un truc bien avec ça.
Après, on n'a pas eu de vrai jeu de cartes Pokémon, je crois, depuis la Game Boy. Pokémon Trading Card.
Sur mobile, il y en a un Trading Card, je crois, hein, actuellement. Alors, est-ce qu'il sera compatible avec celui-là pour ceux qui ont leur carte, ce sera la. Compatible, je sais pas, mais
à voir.
Ça a l'air sympathique. On verra cette année quand ça va arriver. Puis après, on va vous épargner aussi. Il y a eu Pokémon Cardat et Violet. Ils ont parlé des Red Terra Crystal avec Florizarre, Dracaufeu et Tortank doré. On a eu Pokémon Master X, Pokémon Unite, quelques mises à jour, Pokémon Sleep et Pokémon Café Remix. Enfin voilà, autant dire des choses qui, je pense, ont un public. Mais c'est pas nous. Dites-moi, messieurs, mais je pense pas que vous soyez trop hypé par ces autres jeux Pokémon.
Non. Quoique le Unite, il était sympa à essayer. Mais bon, après, je m'en suis lassé, moi, assez rapidement, quand même.
Ça reste un free-to-play aussi. On peut y jouer.
Ouais, c'est un free-to-play.
Facilement, pour se faire un avis.
Oui. Donc... Non, on peut s'en faire facilement un avis. Même si... Je crois qu'il est sur Switch aussi. Il est sur pas mal de plateformes.
Oui, Switch mobile, ouais. Switch mobile.
Voilà, ça fait beaucoup de plateformes. Okay.
Quand même, Pokémon Zeta, le jeu de cartes, l'extension pour les Red Terra Crystal, Pokémon Go, Master X, Unite, Sleep et Café Remix. Tout ça, ça a duré 12 minutes, je crois. Donc, c'est ultra condensé.
Ah ouais, c'est condensé quand même.
Ils ne se sont pas trop éparpillés sur les jeux. Moi, j'aime bien quand ça va comme ça. Ça va assez vite, on a des infos comme il faut, tout ce qu'il faut. On a des dates qui commencent à approcher, on a du gameplay sur certains jeux. J'étais assez content, moi, de ce Pokémon Direct. Je n'entendais rien. Puis, non, je trouve ça pas mal du tout.
Ouais, moi, ce que je trouve plutôt vraiment rassurant, c'est le fait qu'ils se laissent plus de temps entre chaque épisode.
Oui, ils ont compris la leçon, je pense.
Bah là, le dernier. Et puis, même les derniers DLC n'apportent rien en termes d'amélioration sur l'aspect visuel. C'est quand même inquiétant parce que. Autant on peut se dire des fois l'aspect technique, on s'en fout un peu, mais là, ça nuit vraiment
à l'expérience
de jeu. Non, ça nuit vraiment à l'expérience de jeu. Là. On peut attendre au moins un minimum mieux. Quoi.
Donc, est-ce qu'il se laisse du temps pour 2025
quand t'as une Switch.
Non, je suis pas d'accord avec toi. Quand t'as une Switch, ok, tu sais très bien que tu vas pas avoir des jeux hyper beaux. Par contre, tu sais qu'on peut faire carrément mieux que ça. Tu vois les derniers Mario, tu vois les derniers Zelda, c'est forcément, là, je prends vraiment l'exemple.
Tu vois Metroid Prime, Remaster, c'est magnifique.
Mais oui, non, mais il n'y a pas que ça, il y a tellement de beaux jeux quoi, ces derniers temps sur la Switch.
Les Xenoblade. Mais là, Pokémon Zelda, comme tu dis, qu'il y a du temps pour 2025, est-ce que ce ne serait pas aussi pour croiser une sortie avec la prochaine console Nintendo? Je pense que. Est-ce qu'ils se sont dit si on sort fin d'année sur la Switch qui est un petit peu en fin de vie, est-ce qu'on aura le succès escompté ou est-ce qu'on attend une nouvelle console pour sortir avec?
Non, mais je pense que la prochaine console, comme je t'ai dit, tant que, de toute façon, ça ne sera pas avant printemps prochain, printemps de l'année prochaine, ça laisse plus d'un an. Ou alors peut-être qu'ils feront une sortie concomitante avec la sortie de la console et il y aura une version Switch 1. Enfin, pour l'instant, on ne peut pas en dire plus tant qu'on ne sait pas plus sur la future console. Sachant que il est possible que Nintendo retarde encore la sortie tant qu'ils n'ont pas le stock nécessaire.
Oui, ça peut se comprendre. Yes.
Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Maintenant, on va passer sur le sujet un petit peu tendance, hein, puisque comme je disais, actuellement, dans le monde du judo, la tendance, c'est au licenciement. On en fait presque une quotidienne, pas une quotidienne, mais... une bille mensuelle, on va pas se mentir, hein, toutes les deux semaines, on revient sur les licenciements. Et là, cette fois-ci, c'est Sony qui annonce...
L'éditeur préféré de Rowling.
Voilà, on va encore dire qu'on dit du mal de Sony.
Et on a dit du mal de Microsoft il y a deux semaines, chacun tour.
Oui. Bon, ceci dit, il débauche moins de monde que chez Microsoft. Hein,
oui.
Mais ils suppriment quand même 900 emplois dans leur firme jeux vidéo, soit 8% de la masse salariale, qui est assez énorme. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dises autour du sujet, entre autres que ben, il y a le studio de Londres qui ferme, ben, London Studio plutôt exactement, c'est le nom du studio, qui ferme complètement ses portes. Donc c'est ceux qui sont à l'origine de Light Toys, qui ont fait aussi la série des books sur la PS4 et la PS3. Ils ont également fait quelques jeux VR et puis voilà, ils travaillent surtout sur des jeux qui marchaient beaucoup avec du hardware externe.
Mais c'est pas eux qui ont fait le jeu PSVR 2 Horizon Call of the Mountain.
Non, ça c'est Firebird, je crois, le nom du
Ah,
jeu.
Firesprite. Ouais, on va en parler aussi, vous deux.
Oui, Firesprite. Mais eux, pour le coup, c'était une des derniers sections de chez eux qui faisait des petits jeux innovants, un peu à la façon de la Sobo Studio. Donc on sent que ouais, Sony ne veut plus de petits jeux. Alors c'est étonnant parce que voilà, il ferme complètement une porte à leur catalogue de jeux internes.
Ouais, j'ai l'impression de revoir ce qu'ils avaient fait avec London Studio, là. Pas London Studio, studio
Le
japonais,
japonais, ouais.
qui était très bon, qui était fermé. Là, ils ferment Studio de Londres. Ils
Ils ont
ont.
déjà fermé pas mal de studios en Angleterre aussi. Hein.
Oui,
On a
certains,
vu,
plusieurs, ouais.
ils
En
avaient
même temps,
racheté
ça.
Toupsinosis à l'époque, tous les anciens studios de Psygnosis, qui était l'éditeur de Wipeout. Ben lui, aujourd'hui, pas pareil, les studios ont complètement disparu. C'était Liverpool. Voilà.
Ben, les jeux vidéo
Et.
en Angleterre, hein, c'est, je sais plus quel podcast qui en parlait. C'est bon, il y a beaucoup de licenciements partout, mais en Angleterre, c'est vraiment une grosse tendance de fond. C'est assez compliqué. Là, on a Jim Ryan qui a envoyé une lettre ouverte à ses employés qu'on fera suivre dans le Discord où il disait, du coup, comme tu disais, Gab, la fermeture de studio de Londres, des réductions seront opérées chez Firesprite. Alors, on ne sait pas combien de personnes. Et donc, oui, Firesprite, c'est eux qui ont bossé sur Horizon Call of the Mountain sur PSVR 2, quand même. Ils ont apporté une aide aussi pour le jeu Star Citizen. Ils avaient bossé avec eux sur ça. Ils avaient pas mal de jeux VR à côté.
Star Citizen, c'est
Non, mais
pas tout. Mais
ils
qu'est-ce
ont.
que c'est ce jeu?
Star Citizen, ils ont bossé sur le mode Theatres of War, sur ce jeu-là, en coopération avec le studio qui a fait le jeu. Mais ils ont apporté du soutien à un moment donné. Donc, ils ont bossé là-dessus aussi.
Tu dois confondre pas, c'est pas Star Citizen, tu dois confondre avec
Non, non,
No
je.
Sky.
Ah bon. Non, non, Star Citizen, puis j'ai un article à côté. Je te l'enverrai si tu veux. Ah, ils n'ont pas fait le jeu, mais ils ont apporté un peu de soutien. Et après,
C'est pas un jeu
ils
Sony,
ont.
Star Citizen.
Non, mais ils ont apporté un soutien, des gens de ce studio-là, au studio qui a fait le jeu, ouais.
Bon, effectivement, t'as raison, Star Citizen, ils ont bossé dessus, je suis autant pour moi. Et puis, il y avait aussi, ben, pour revenir sur London Studio, ils étaient aussi à l'origine du jeu Gateway sur PS2, qui peut-être pour pas mal de monde. Ça fait vieux maintenant, hein. Mais c'était un super jeu ça, à l'époque sur la PS2. C'était un GTA-like qui avait quand même pas mal, enfin techniquement qui a envoyé du lourd. Hein. Londres était super bien reproduite pour l'époque. Donc voilà. Bon, au-delà de l'aspect purement éditorial et que ça sous-entend, parce que là on parle des studios qui sont les plus impactés, mais on sait qu'il va y avoir des suppressions également, soit des studios qui sont plus prestigieux, comme chez Insomniac, comme chez Naughty Dog, comme chez Guerrilla. Et c'est vrai que enfin, ce mouvement actuel de licenciés du monde, alors qu'en plus, Sony, là, ils ont montré leurs chiffres, ils ont fait des chiffres meilleurs que les années précédentes, ils ont des perspectives pour cette année qui sont encore meilleures qu'avant 2019, tu vois. Alors que tout
Ah, mais
ce monde-là était
c'est. Moi,
déjà présent
ça
en
me.
2019. Donc on est en droit de se dire quand même qu'en fait, là, comme ils n'arrivent pas à générer les marges aussi grosses qu'annoncées par rapport à ce qu'ils annoncent aux investisseurs, bah, la variable pour faire de la marge, c'est les salariés. Et là, je trouve ça mais
Ah, c'est
monstrueux, quoi.
détestable, hein. C'est comme quand on disait il y a 15 jours Microsoft qui a viré 1900 personnes alors qu'ils ont annoncé des super chiffres, qu'ils ont annoncé le rachat d'Activision Blizzard en grande pompe en disant quoi, pardon, quand ça va arriver, on va tout changer, ça sera beaucoup mieux, et puis bim, 1100 personnes. La Sony, comme tu dis, ils font des bons chiffres. Bon, ils n'ont pas autant de PS5 que ce qu'ils voulaient, mais quand bien même. Là, c'est les Royaume-Uni qui trinquent. Et également, ils ont annoncé que les studios aux États-Unis, les employés seront tenus au courant de ce qui se passera chez eux. On ne sait pas, quand tu reçois ce message-là, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter ? Qu'est-ce qui va sortir ? Donc, ouais, si, ça fait pas bon en ce moment d'être dans le milieu de la tech et du jeu vidéo, parce que nous, ça ne nous intéresse pas non plus d'en parler, mais il faut qu'on en parle.
Ah, et c'est pas... Moi, moi honnêtement, je tiens à en parler, parce que c'est des sujets...
Oh, non, mais je veux dire, je vais en parler, mais je veux dire, c'est jamais des sujets intéressants à parler. Je veux dire que c'est pas 9 personnes, là, c'est 900 personnes. Il y a 15 jours, c'était 1900. Je crois qu'on est rendu en mars, on doit être rendu à 9000 personnes qui ont été... perdu leur boulot cette année dans le milieu du gaming, enfin, je veux dire, on s'arrête où ?
C'est vrai que plus ça va, plus il y en a. Hein.
Dingue.
On va te dire que les causes sont multiples, mais la vraie source de tout ça, c'est l'appât du gain. Donc, c'est vrai que... Est-ce que les studios vont tous mal ? Non. Certains, certainement, plus que d'autres, mais globalement, quand tu vois les moves de Microsoft et Sony récemment, rien ne justifie les licenciements de ces gens-là, sachant que tout va bien. Quoi.
Est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied dans toutes ces personnes-là, comment en interne ils vont se réorganiser ? Parce que je n'ai pas cru comprendre qu'il y ait moins de gens en développement. Il y a quand même beaucoup moins de monde.
C'est juste pour retarder l'inévitable, parce qu'à un moment donné, ils n'auront plus de possibilité de croissance et d'augmentation de leur chiffre d'affaires. Donc qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là ? Ils ferment les portes ? Ils ferment. Ça n'a pas de sens. C'est sans fin.
Ouais, non, c'est inquiétant. Donc, bon, on vous redira dans 15 jours s'il y a eu des rebondissements là-dessus, qui est concerné aux États-Unis, voir un petit peu comment ils se réorganisent. Mais ouais, c'est
je vois que nous avons un chroniqueur qui vient nous rejoindre en cours d'émission.
Un invité surprise.
Un invité surprise, voilà. C'est Riri Gaga.
Salut Riri. C'est la lutte finale.
Alors, je tiens à signaler que Riri fait partie du MEDEF, donc je vais laisser la parole au patronat. Vas-y Riri, dis-nous ce que tu penses de la situation.
Non, mais j'ai pris la conversation en cours. Déjà, tout d'abord, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, mes chers auditeurs et auditrices, et mes chers chroniqueurs et chroniqueuses.
Bon, il n'y a plus trop de chroniqueuses. Ça va très bien.
J'espère que vous allez bien. Mais non, bah après, concernant ces licenciements, après, ils externalisent énormément maintenant le monde du jeu vidéo. Beaucoup de studios externalisent les développements. Et concernant Microsoft, même si moi, je ne suis pas pour les licenciements, il faut que tu le saches, ça, malgré que la réputation qui...
Tu vas retrouver une circonstance atténuante. Je sens que tu vas... Attention, hein. Je te laisse y aller.
Non, il n'y a pas de circonstance. Mais en fait, ils ont racheté Activision Blizzard. Mais quoi qu'il arrive, Microsoft ont déjà leurs équipes qui sont déjà installées, en qui ils ont confiance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des doublons dans les métiers en question. Il y a des doublons. Donc
oui, mais il n'y en a pas 1900, quoi.
Non,
c'est quand même une grosse structure. Enfin, il n'y en a pas 1900, oui, je suis d'accord, mais c'est quand même une grosse structure. Et après, Activision, je ne connais pas. Là, ce n'est encore une fois que des suppositions, mais Activision, c'est... t'as toute la génération Bobby Kotick à dégager. Hein. C'est une gangrène, c'était une gangrène le truc. Hein. Et tu le vois d'ailleurs dans Call of, moi qui suis un joueur Call of. Mais franchement...
Il y a peut-être... Alors, effectivement, mais je ne suis pas sûr que ça représente 1900 personnes. Là, tu
je
ne
pense pas aussi, ouais.
Il y a quand même un mouvement de fond qui a tendance à réduire le coût des équipes de développement. Pourquoi ils sont tous mis d'accord à ce moment-là ? Tu peux te poser des questions quand même.
Oui, clairement. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi.
Il y a quand même... Alors, soit ils se sont fait une petite réunion de chefs entre eux, de directeurs de boîte, ils nous font chier tous ces employés à demander des trucs, des machins. On va tous les sécher un coup, là. On va leur mettre le chômage... on va les mettre au chômage, tu vas voir, ils vont se calmer.
Et surtout que c'est enfin, une industrie qui se porte bien. C'est ça que moi j'ai du mal à comprendre par contre.
Je pense que c'est comme si c'est multifactoriel, mais le facteur principal pour moi ça reste quand même l'argent. Là je sais plus, j'avais lu récemment par exemple sur Marvel, sur Insomniac qui a fait Marvel Spider-Man 2, qui a très bien marché puisqu'il s'est écoulé à plus de 10 millions en quelques semaines. Le jeu a coûté, je crois, 300 millions. et n'a fait que 110 millions de bénéfices sur ses 10 millions de ventes. Donc, en fait...
Ouais, pour moi, il faudrait... Enfin, pour moi, pour réduire les coûts, il faut revenir à l'essentiel du jeu vidéo. Le marketing, il faut arrêter le délire. Aujourd'hui, un jeu comme Spider-Man, quand on voit, il coûte 300 millions d'accords, mais combien en marketing? Combien en communication? Combien en event, en machin? Les jeux se portaient beaucoup mieux quand il n'y avait pas autant de communication à la GTA. Aujourd'hui, tous les jeux ont une com à la GTA. Hein. C'est énormément de fiches de campagnes publicitaires, énormément de placements de produits, aussi bien chez les streamers, parce qu'on n'en parle pas, mais les streamers, ils touchent bien de l'oseille quand ils font des jeux, ça coûte de l'argent aussi. Hein. C'est... Ah ouais, bah, S'il y avait moins de communication et plus de développement, je pense que déjà les joueurs seraient beaucoup plus heureux, parce qu'il y aurait des jeux aussi de bonne qualité et peut-être finis, même si j'y crois plus trop en 2024.
Bah, on a quand même des jeux, en ces derniers temps, on a quand même eu des très bons jeux bien finis, très bonne qualité. On ne peut pas dire qu'on ait manqué de bons jeux.
Non, c'est vrai. Il y a des bons jeux, c'est vrai, il y a eu des très bons jeux. Mais les coms, encore une fois, dessus, je pense que là-dessus, on verrait plus de meilleures économies autour de ça que de licencier des gens. Les jeux finis à la sortie, ça n'existe pas.
Eh bien, écoute, la parole du BNF, pour une fois, me semble bien sage.
C'est vrai.
C'est vrai. Merci, Riri.
Non, je t'en prie. Bon, on m'a invité. Moi, là-bas, j'étais parti près des auditeurs.
Non, mais ça m'intéressait parce que je te voyais en train de dire oh, encore l'autre syndicaliste qui est en train de faire sa révolution. Et tu n'as pas tort. J'ai mon prisme à moi qui est très, très ancré dans la protection. Et il est bon de le rappeler aussi. Mais bon, ça me rassure aussi de ne pas être non plus tout le temps à côté de la plaque.
Non. Mais après, il ne faut pas oublier un truc, c'est que les jeux vidéo, aujourd'hui, bah, c'est des contrats. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un en CDI ou tu prends quelqu'un avec une... souvent, ça doit être des CDD non renouvelables. Je connais pas leur statut. Mais un jeu comme Spider-Man, bah, un développement, c'est 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait après ces 5 ans? T'as un gros temps mort. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? Voilà. Tu vois, t'as des gens... dis-moi, peut-être que je me trompe. Hein, ou peut-être que je parle trop. Désolé. Mais... on en fait quoi de ces gens-là en vrai après? Bah, les développeurs, des graphistes, bah, on les vire. Bah, on attend qu'ils reviennent ailleurs. Ou bien sinon, tu as une migration salariale qui se promène un peu partout dans cet univers. Que bah, les mecs d'Insomniac se retrouvent, je sais pas moi, chez Criterion et ainsi de suite, et vice-versa.
Là, le truc, c'est que là, on disait qu'il y a eu plus de 9000 licenciements depuis le début de l'année. Tu as 9000 développeurs de jeux. Même si, admettons, ils font pas tous la même chose, que tu as des graphistes et tout, avec des métiers différents, ces 9000 personnes, tu vas pas me faire croire qu'ils vont retrouver du boulot dans le jeu vidéo le lendemain, quoi. C'est déjà un marché qui est saturé sans licenciement. Le problème, c'est
que... Est-ce qu'ils en ont envie, hein?
Voilà, et puis...
Non, ouais, c'est aussi ça, est-ce qu'ils en ont envie. Après, faut pas oublier que dans les 9000, je vais pas vous dire qu'il y a des génies type japonais, parce que je connais pas les noms, mais le nombre de fois où il y a eu des licenciements et à la fin on s'est retrouvé avec des petits développeurs, tu te retrouves avec des mecs qui ont été licenciés d'un endroit et qui ont fait Castlevania, je pourrais pas te dire le nom. Par exemple, le jeu là, le Castlevania-like qui a été fait par le réalisateur, tu vois.
Bloodstained.
Ouais, voilà. Au Japon, ils ont quand même cette initiative de faire après autre chose à leur image, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Oui, mais ça, c'est des grands noms qui sont déjà connus. Je suis d'accord avec toi, hein, mais il faut déjà avoir une certaine notoriété dans le domaine. Là, j'ai pas connaissance de grands noms dans les licenciés, puis... Bon, la question n'est pas voilà, de mettre des noms, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde et je trouve ça dommage. Voilà.
Ok. Je voulais pas vous retarder plus que ça, les amis. Hein. Vraiment, je vous écoutais.
Bon, on va passer maintenant chez Apple. Hein. Donc voilà, on a fait le tour. Parce qu'on a parlé de Microsoft et de Sony. Bah, maintenant, on va parler un peu d'Apple. Apple, eux, ne licencient personne pour l'instant. Quoique, il n'y a pas eu un plan de licenciement l'année dernière, je ne sais plus, à la fin. Et il y en a tellement eu dans la tech aussi l'année dernière que c'est sans fin. pour parler de l'Apple Arcade. Alors, c'est moi qui ai amené un petit peu le sujet là, puisque j'ai lu plusieurs articles, dont un sur IGN, qui parle un peu d'Apple Arcade. Alors, si vous n'avez pas suivi, c'est l'offre Netflix du jeu vidéo d'Apple, où Apple propose un catalogue de jeux vidéo dédié, de jeux vidéo premium mobile, pour ouais, 5 premium, euros ouais. par mois.
Et c'est uniquement sur plateforme Apple, hein, je crois. iPhone, unique. iPad, Mac.
Voilà. Il y a eu quand même quelques petites pépites hein, qui ont traîné dessus. Je pense notamment à Fantasian. Voilà, on a pensé au même. voilà, qui n'a jamais sorti de la plateforme, qui n'a jamais été traduit, qui mériterait de voir le jour sur d'autres plateformes, je pense. Fantasian, pour rappel, c'est fait par un certain Hironobu Sakaguchi. Le créateur de Final Fantasy VII, pour nos auditeurs.
Tiens, pour ne pas le dire.
Pour ne pas le dire à certains de nos auditeurs qui ne peuvent plus entendre parler de Final Fantasy VII. Mais bon.
Coucou Scal.
Donc, voilà. Et on apprend par la bouche de ces différents développeurs historiques que les relations avec Apple se sont tendues ces dernières années. De par le fait que certains ont été voir aussi un petit peu à la concurrence pour proposer leurs jeux, dont Netflix, et que Netflix fait quand même énormément d'ombre par leur catalogue mobile à Apple Arcade, et qu'Apple Arcade serait sur un déclin très très fort ces dernières années, au point où Apple envisagerait soit de fermer la plateforme, soit même de la recréer sous un autre...
Netflix leur ferait de l'ombre, vraiment. Il y a bien un truc, je trouve que ça ne marche pas, c'est Netflix, mais bon,
et si bah, Apple si, le là, dit... Là, c'est plusieurs échos, mais en fait, beaucoup d'abonnés Netflix en fait, accèdent à des jeux à travers la plateforme Netflix, et forcément, ils préfèrent, ils ont dit, tiens, j'ai déjà un abonnement chez Netflix, pourquoi je vais rester sur Apple Arcade, quoi. J'ai droit à des jeux premium aussi, enfin voilà, Et c'est vrai que, quand on regarde bien, l'offre Netflix, elle n'est pas déconnante en termes de jeux, pour du mobile.
À voir ce qu'ils vont en faire, parce qu'Apple Arcade, ça marche surtout aux États-Unis, parce qu'il y a quand même énormément d'iPhone vendus là-bas, ça fait une grosse base de joueurs et de joueuses. D'ici là, est-ce qu'ils abandonnent le projet je ne suis plus étonné par rien en ce moment, mais ça m'étonnerait quand même qu'ils ferment Apple Arcade après toutes ces années.
Ce qui est quand même constaté, c'est qu'il y a une baisse réelle des budgets. Donc on ne paye plus aussi bien ou assez les producteurs de jeux ou les réalisateurs de jeux pour pouvoir fournir des nouveaux jeux. Donc ils se désengagent vis-à-vis d'Apple. Donc ils sont en train de créer eux-mêmes la mort de leur plateforme. Et les abonnés sont de moins en moins nombreux. Donc je ne sais pas comment ils vont faire pour garder ce rythme-là. Et il y a eu aussi un troisième truc de ce que dit le même article, c'est qu'ils ont pris une autre direction en voulant proposer des jeux plus familiaux, plus éducatifs. Sauf que ça prend pas du tout. Enfin, donc voilà, mis tout bout à bout, les développeurs quittent le navire, sont énervés vis-à-vis d'Apple parce que quand Apple leur font un peu la misère sur les rémunérations s'ils ont été voir Netflix. Voilà, il y a beaucoup de choses qui fait que la plateforme va mal et je suis pas plus étonné que ça. Que j'étais étonné du succès qu'avait pu avoir Apple Arcade à ses débuts.
Yes, écoute, affaire à suivre, alors voir un peu comment ils vont faire ça. Est-ce qu'on va parler du licenciement chez eux aussi ou est-ce qu'ils vont changer leurs tarifs je ne sais pas.
Non, ils iront ailleurs, ils feront autre chose, ils font des casques virtuels. Je ne sais pas encore.
Oui, c'est la hype.
C'est la hype, la grande hype. Voilà. La fin de la grosse actu, je vous propose de passer aux rumeurs et c'est parti.
Pour une poignée de gamers, le podcast.
Les rumeurs. Alors, Sagaz, vas-y, je te laisse nous lancer sur une première petite rumeur.
Je voulais laisser la place à Rowling d'abord. Je la ferai juste après, comme ça, la mienne.
Ça va de pair. Tu voulais parler de Borderlands 4, je crois, un jeu à venir de chez Gearbox.
Ça n'a pas vraiment été teasé, mais il parle de... comment il s'appelle ? J'ai perdu son petit nom à lui. Randy, de son petit nom. a parlé en fait qu'ils étaient sur un jeu, le meilleur qu'ils aient fait, tout ça, mais ils n'ont pas donné le nom. Ils ont juste dit que c'était exceptionnel et tout ça. Et il n'y a pas longtemps, le 13 février exactement, ils ont mis une petite vidéo de Borderlands de où ça a commencé. Enfin, comment ça a commencé. Donc ça, plus la petite phrase de... Il a dit, ça nous laisserait supposer qu'un Borderlands 4 serait dans les tuyaux, voire débuté.
De toute façon, il y a un film aussi, Borderlands, là, qui va arriver ou qui est arrivé, je sais plus.
Il va arriver, je l'ai mis dans les actus en vrac.
Bon, on peut en parler maintenant, non. C'est pas de pair. Donc, c'est vrai que s'ils font un film, ça peut engendrer un jeu derrière aussi.
C'est ça, en fait, ils sortent le 9 août exactement. Et puis bon, ils ont mis les petits plats dans les grands, si j'ai envie de dire. Ils ont mis des acteurs quand même plutôt connus.
Oui, le trailer a l'air cool.
Mais si ça respecte le jeu, franchement, il y a moyen que ce soit quelque chose de très sympa. Et moi, c'est un film que j'irai voir au cinéma, personnellement.
D'ailleurs, en parlant de Borderlands, il y a aussi une autre rumeur qui tourne, c'est sur le futur achat de Gearbox.
Ouais, bah oui, c'est ça, ça va de pair. Parce que Gearbox, donc c'est ceux qui ont fait les jeux Borderlands, qui ont été rachetés par Embracer Group en 2021 pour 1,38 milliard de dollars. Bon, on sait qu'on peut Embracer dernièrement, ouais, pas grand-chose, 1,40 milliard, 400. Et on sait qu'Embracer dernièrement, c'est pas la folie en termes de licenciement, en termes de studios qui ferment, tout le monde tremble un peu. Et apparemment, on aurait Gearbox qui préparerait sa sortie du studio Embracer pour reprendre leur indépendance. Alors, est-ce que c'est possible via le deal d'un 1,8 milliard de dollars? Est-ce que les IP, je pense à Borderlands, appartiennent à Embracer ou appartiennent encore à Gearbox? Ou est-ce qu'ils vont les racheter? Si oui, à combien? Donc il y a beaucoup de choses là-dessus. Ils veulent faire un Borderlands 4. Est-ce qu'ils pourront le faire en quittant Embracer? Ou est-ce qu'il faut qu'ils restent chez Embracer et qu'ils partent après? Est-ce que l'IP leur appartient? Il y a plein de choses encore que je ne maîtrise pas, mais ça se dit qu'ils veulent quitter le groupe, ouais.
Ouais, donc beaucoup de rumeurs autour de Gearbox et de leur licence. Et le PSVR 2.
Le PSVR 2 en rumeur, le fameux. Tout à l'heure, on a parlé du studio.
Ah, est-ce vraiment une rumeur d'ailleurs? Parce que moi, j'avais plutôt
Ça m'étonne pas, mais en fait,
vas-y.
Le PSVR 2, on en a parlé ici. On a dit un peu ce qu'on pensait, que c'est du bon matos, mais que c'est bien trop cher et que ça a du mal à se vendre. On le voit bien, il n'y a presque aucun jeu qui arrive dessus. Et les jeux qui arrivent, comme Call of the Mountain. Le studio qui l'a fait, Fire Sprites, ils ont des réductions d'effectifs, donc ça n'a pas dû marcher tant que ça. Et on rappelle que ce PSVR 2, pour le faire marcher, il faut une PS5 à côté, donc il faut les deux pour que ça marche ensemble, donc, d'où le fait que je pense qu'ils se vendent mal. Le casque n'est pas un stand-alone, il ne marche pas tout seul.
Petite parenthèse, il va y avoir une mise à jour du PSVR 2 pour qu'il soit compatible PC.
Oui, j'y arrive.
Pardon. C'est là où je te dis, c'est pour moi, c'est pas une rumeur, c'était quelque chose d'officiel.
Et ouais, il y a une mesure qui va arriver pour le rendre compatible PC aussi. Donc pour moi, ce serait une bonne chose, parce que ça redonnerait de l'attrait au casque pour de pouvoir y jouer sans avoir la PS5. Bon, le casque ne marchera toujours pas tout seul, comme peut faire un MetaQuest 3, mais bon, je pense que ça peut sauver le casque, je ne sais pas, mais ça peut amener une nouvelle base de joueurs et de joueuses et. Une bonne chose d'ouvrir ça aux joueurs PC aussi.
C'est pas un mauvais casque, le casque VR.
Ah non, loin de là.
Trop cher par rapport à la concurrence.
C'est le prix à sortir pour pouvoir jouer à jeu là-dessus, c'est. Personne va.
Trop cher, non, c'est la clientèle recherchée dans ça, c'est tu n'es pas la clientèle visée, mais un casque à 600€ et de bonne qualité. C'est du moyenne gamme, hein. C'est.
Ouais, mais regarde, MetaQuest 3 qui fait ces prix-là va marcher en standalone, c'est-à-dire tout seul. Et là, un PSVR 2, tu veux y jouer, mais il te faut une PS5 à 550€ à côté.
Ouais, ça, là-dessus, je suis d'accord.
C'est ce bisbille entre les deux hardware qui fait que c'est un gros billet à sortir pour y jouer, quoi.
Et un MetaQuest, tu payes 400 balles, t'as tout, quoi. Et c'est vrai que tout de suite, ça.
T'as de la R et de la VR.
Et t'as la console qui va avec.
Un MetaQuest, je l'avais, et bon, il est intéressant. Mais le truc, c'est qu'en jouant seul au MetaQuest, tu es très vite limité hein, quand même. La vraie utilité du MetaQuest, c'est quand tu as un PC. Hein. Tu as des jeux développés pour du VR. Et c'est des experts. Bah après, bon, c'est un autre débat, mais ce sont des expériences. Mais le vrai potentiel du MetaQuest, tu ne l'as qu'avec un PC à côté. Hein.
Oui, mais ça reste quand même un casque plus abordable en termes de tarifs, même le 3. Et il est autonome. Si tu n'as pas de PC, tu peux quand même faire des expériences VR. Si en plus tu as un PC, tu peux aller bien au-delà. Donc, je pense que Sony, là-dessus, il ne regarde pas aussi ce que font la concurrence. Même si quand tu vois Valve, effectivement, avec leur casque à 1000 balles, tu te dis, oh, bon, on n'est pas si cher que ça. C'est vrai. Mais Valve ne vend pas des casques comme ce... comme MetaQuest.
Non, mais le casque de Sony, c'est un flop. Hein. C'est... À un moment, il faut parler français, les mecs. Hein. C'est comme la Xbox, la Xbox Series X. C'est un flop, les gars. faut être sérieux. Et donc... C'est pour ça que...
Et je pense que la S et la X, c'est un semi-flop, dans le sens où ils ont bénéficié du fait qu'il y avait un manque de PS5 à la sortie de la PS5 qui a permis de leur laisser un minimum de ventes.
Une marge de manœuvre pour se faufiler.
Sans la difficulté d'obtenir des consoles next-gen, ils n'auraient pas vendu autant.
Ah, c'est sûr.
Ça y est, c'est... Enfin... D'ailleurs, la preuve en est, vous en avez parlé, parce que j'ai posé la question sur le chat, mais vous en avez parlé il y a 2 semaines concernant la nouvelle politique de Microsoft qui décide maintenant de sortir des jeux en multiplateforme, des jeux à service, hein, mais en multiplateforme.
C'est une bonne chose, franchement. On peut pas se scandaliser qu'un éditeur ouvre leur jeu à d'autres plateformes.
Oui, il l'avait annoncé.
Ah,
hein.
C'est mortel. Mais,
de même que Sony a décidé d'éditer leur jeu sur PC, très bien pour les joueurs PC. Enfin, continuez, quoi, les gars.
Non, c'est une bonne chose, mais la part de console, c'est différent. Ça vient sur PC. Le PC, c'est la Suisse des jeux vidéo. C'est-à-dire que PC, c'est neutre. Tu peux venir sur PC, tranquille. Mais de Microsoft aller chez Sony ou aller chez Nintendo, c'est autre chose. C'est un autre débat. C'est là, on parle d'exclusivité, on parle de fer de lance d'une console qui va ailleurs. Comme pour l'époque de ces Sony que... Ça vous a fait bizarre la première fois que vous avez touché à Sonic sur GameCube.
Non. Ouais, maintenant dit comme ça, oui. Après, c'est gâté mort aussi à ce moment-là, donc il n'y a plus vraiment de game.
Ouais, bah oui. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je te dis qu'ils aillent ailleurs. Moi, je trouve ça, c'est un aveu d'échec. Mais bon, après. C'est une bonne chose pour les joueurs. Au moins, ils pourront goûter à Grounded. Ils pourront goûter à plein de trucs. Grounded. J'espère même qu'ils feront ça. Grounded, ouais, c'est un bon jeu.
Il y a ça, et puis bon... Ok. Non, mais je sais pas trop comment penser. Parce que j'ai vu un autre truc aussi récemment qui parlait des ceux qui achètent des consoles aujourd'hui. Et tu te rends compte que c'est plus les jeunes. Donc le monde PC le PC est plus une console de jeunes aujourd'hui que les consoles l'étaient à notre époque.
Ouais, c'est vrai ce que tu dis.
C'est les vieux cons comme nous qui achètent les consoles.
Ouais, c'est les souvenirs. Hein. C'est...
Ouais. On dérive, monsieur.
On dérive, c'est vrai. Ouais. On est en train de dériver, donc là, je crois que là, on est en dehors de la rumeur.
Ouais, désolé, mec. Dès que j'ai vu, voilà. C'est dérive.
Voilà. On va passer à la news en vrac, c'est parti.
Pour une poignée de gamers, le podcast.
La news en vrac, allez, vas-y.
Cette musique, vous l'avez sûrement reconnu, c'est fait le jeu, même si vous ne l'avez pas fait, vous l'avez sûrement vu passer, c'est l'opening de Elden Ring, le retour du roi. Bon, on disait tout à l'heure, après le Nintendo Direct, qu'une heure après, donc c'était le Nintendo Direct, le Nintendo Direct Partner Showcase, c'était à 15h, et à 16h, on avait une conférence de From Software, enfin un trailer, pour nous parler du DLC d'Elden Ring Shadow of the Earth Tree, qui avait déjà été annoncé, mais sans date et sans... Il y avait juste une image. Là, c'est maintenant c'est chose faite. On a vu du gameplay, on a vu de nouveaux boss, on a vu de nouvelles façons de jouer, des nouvelles zones. Et on a surtout vu une date. On a vu le 21 juin, c'est ça, messieurs, pour la sortie du DLC.
Moi, je te fais confiance.
Je sais plus grand-chose aussi, hein, parce que là, alors là, sur la date...
Ah, merci, messieurs. C'est le 21 juin, je vous le confirme. Par contre, ce qui nous manque, c'est le prix du DLC. On ne le connaît pas. Par contre, on connaît le prix de l'édition collector qui accompagnera le DLC, qui sera pour la bagatelle de 249,99€.
Bah, ça, c'est pour
Riri. Et la carte bleue.
Ouais, Riri, il n'y a que lui qui peut acheter ça aujourd'hui.
Il en rêve.
Vu c'est le prix qui paye ses kebabs, tu vois, déjà, donc franchement, ça ne fera pas une grosse différence.
Ah, il aura le droit...
Peu d'or, s'il vous plaît.
Ah, il refuse de répondre, d'accord, et on est là.
il aura le droit à un code de téléchargement pour le DLC. Il n'y a pas le jeu dans ce guide collector. Dans cette édition collector, il faut avoir le jeu avant, physique ou des maths, peu importe. Vous aurez le droit à un code pour le jeu, un code pour récupérer la bande son numérique, un artbook de 40 pages et une statuette de Mesmer, oui, le fameux, parce qu'il y a que je pensais, de 46 cm.
Ah bon, c'est pas l'hypnotiseur.
C'est pas l'hypnotiseur. il a changé alors. Donc la statuette est magnifique, l'artbook, je dis pas, et moi, ces prix, ça me fait toujours halluciner, quoi. 250€, l'édition collector, mais je sais que ça va se vendre.
Alors que si vous passez pour Sagaz et moi, Sagaz fait la figurine, moi je vous la peins, et à la fin, vous êtes... Franchement, vous avez une figurine artisanale.
Artistique c'est même, chose. Je dois dire.
Ouais, même artistique, quoi. On va pas se mentir.
C'est ça.
Vous verrez ça jamais ailleurs.
Petite main avec Gab.
Et on fait du très bon boulot, on va pas se mentir.
Ben oui, jetons-nous des fleurs, personne ne le fera à notre place.
Ouais, exactement.
C'est le moment. Et ce trailer, vous avez pensé quoi, vous messieurs, quand... C'est-à-dire 3 minutes.
Ben, j'avais pas prévu de retourner sur Elden Ring, je m'étais dit, oh, 160, enfin, je sais même plus combien d'heures maintenant, mais trop d'heures dessus, plus tard, j'ai fait le tour, je me vois mal y retourner, j'ai vu le trailer, j'ai fait, ça a l'air sympa quand même. La zone, elle est juste magnifique, on voit encore des boss qui ont l'air complètement fous, de nouvelles façons de jouer avec son personnage, avec les nouvelles armes, dont des armes pour se battre au corps à corps avec les poings, qui permet de faire des esquives un peu bizarres. Enfin, voilà. Tu dis, voilà, le jeu, déjà, il dit, tu pensais avoir vu tout ce qu'on pouvait t'offrir avec le jeu, ben, on a encore mieux à te proposer. Et rien que pour ça, je pense que le DLC en vaut le détour.
Et ça a l'air, de ce qu'on a vu là, beaucoup plus glauque, plus sombre, plus violent. Content de voir, mais la DA est toujours extraordinaire, les boss sont toujours magnifiques. J'attends de voir le prix, surtout quand il va sortir. Je attendrai bien à 30, 35€, 40 grand max. Il ne faut pas aller au-dessus pour un DLC.
Le prix d'un jeu normal.
Non, mais c'est 40€, c'est annoncé. Hein.
Il a annoncé 40€.
Ah oui, c'est 40€. Ouais.
D'accord, j'ai pas vu. Bah oui, bah toi, c'est le max que je pourrais mettre pour un DLC. Hein.
Non, mais il va coûter 40 balles, mais... Voilà, je pense que pour 40 balles, on ne sera pas volé.
Mmh, oui, complètement. À voir
oui,
après.
Oui, c'est vrai. On ne sera jamais volé avec Elden Ring.
Ah, t'as fini, ça.
De quoi vous parlez, là ?
Je revenu pas que pour ça.
Mais... Non, mais... Parce que je vois qu'on est en phase de test. Maintenant, on fait des tests. Dans les news, on fait des tests. Bon, c'est... On parle de DA, on parle de... Ok, les gars. Quand Elden Ring, mais... c'est le totem.
Je me tais. À un moment donné, tu vois... T'as la bonne foi et la mauvaise foi. T'as pas fini.
T'as le bon et le mauvais gamer. Le bon gamer, il allume, il joue.
C'est ça. C'est le mec qui a au moins osé toucher un joystick de sa vie et jouer avec 4 boutons, tu vois. Il s'est pas contenté de tirer R1 avec son pistolet. C'est
autre chose, tu es bien méchant avec moi. Je me rappelle qu'on ait joué ensemble à un jeu où il y avait 6 boutons qui s'appelait Street Fighter. Tu te souviens?
Oui. Non, mais attends. C'est comme les soirées pizza où t'as invité des potes, tu fais hey, vous avez vu ce jeu de combat où j'ai déjà joué 200 heures dessus, vous pouvez pas jouer avec moi.
De quoi bah,
Gaga, il m'a fait ça.
Oh, qu'est-ce que c'est bas. Qu'est-ce que c'est bas. Mais c'est
pizza.
Grave. Je t'en veux pas. Je comprends qu'en tant que perdant, tu cherches une excuse.
Mais pour branler, j'ai même pas à manger, tu vois. C'est
bon, revenons à Elden Ring, messieurs.
Désolé.
Et est-ce qu'ils ont dit le contenu? Est-ce que c'est du endgame déjà? Est-ce qu'il faut finir le jeu pour accéder? Ou est-ce qu'on peut accéder?
Alors, tu dois faire deux boss. Jeu, c'est une zone que tu peux accéder à partir d'un certain endroit du jeu. où tu vas te téléporter dans cette nouvelle zone qui n'est pas connectée au monde actuel, et ça ressera quelque chose qui sera à peu près aussi grand que Necrolimbe, qui est la région du début, qui est déjà assez conséquente.
C'est déjà bien à l'aise.
On voit qu'il y a un nouvel arbre monde, bah voilà. Moi, je signe, j'achète. Voilà.
Ah, moi aussi. Rendez-vous le 21 juin pour un nouveau test PPG.
Non.
Carrément. Et bien voilà, j'ai fini mon actu en vrac sur Elden Ring. Ben,
c'est parti pour le sel. Hein.
Let's go. Le sel de la semaine 8, oh, il va pas être très dur à trouver celui-là. Hein.
Moi je sais, j'ai mon gagnant du mois, enfin mon gagnant de l'année.
Vas-y, dis-moi s'il est dedans.
C'est Skull and Bones.
Eh non. Comme quoi, hein, il s'est pas vendu. Moi aussi, je pensais le voir ici. Attends, je crois qu'il était en top sell de la semaine 7. Oui, c'est ça. Semaine 7, il était en top sell en deuxième sur PS5. Ça a duré une semaine. Là, il n'est plus là. Là, on a trois jeux.
Il va revenir la semaine prochaine, je pense, tu verras.
Ah, c'est sûr. Maintenant qu'on en a parlé. Bon, qu'est-ce qu'ils font de bien, les jeux Switch? Quelle licence ils essorent au maximum?
Mario Kart.
Mario Kart.
Voilà, Mario Kart 8 Deluxe.
Mario
Wonder. Ouais.
Zelda Tears of the Kingdom.
Non, il faut un autre Mario. Ah, ils font que du Mario. Un Mario qui est sorti il y a 15 jours.
Ah,
tout récent,
Mario
là.
Donkey Kong, hein.
Oui, le remake. C'était sur DS. Non, sur GBA. Je l'ai acheté. Je suis dessus actuellement. Et c'est vrai que ça se fait très bien. C'est un petit
Mario
jeu.
RPG?
Non, Mario versus Donkey Kong.
Mais c'est ce que j'ai dit.
Mais j'ai dit Mario RPG ?
Non, j'ai dit avant Mario, c'est pas assez, vas-y, continue.
Oublie ouais, Mario vs. Donkey Kong. Donc, je l'ai acheté et je le pique. C'est un jeu qui se picore, tu fais un niveau par-ci, niveau par-là, et ça fonctionne bien, c'est assez intelligent. Je vais pas dire que c'est quand même très compliqué, mais les niveaux, t'as des mécaniques sympas, ça marche bien. Donc, il est premier top sell, Mario Wonder est troisième, Mario Kart 8 Deluxe qui est quatrième, et en deuxième et cinquième, c'est le même jeu. Qui ressort là sur PS4 et PS5, qui n'est pas sorti hier, hein, qui n'est pas récent, mais qu'ils ont toujours dans le sel.
Je sais pas, FIFA.
Ouais, c'est ça. EA Sports.
Ouais, EA Sports.
FC24.
Ah oui, il y a une grosse promo, c'est pour ça. Je sais pas, j'ai vu ça récemment.
Donc il se vend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Mario Donkey Kong 1er, FC24 2e, Wonder 3e, Mario Kart 8 4e, et FC24 5e. Donc voilà. Prends la même, on recommence, et on verra dans 15 jours où on en sera. Voilà le sel de la semaine 8, messieurs.
Merci bien. Moi, je vais prendre la petite news que tu m'as laissée, même si j'ai pas trop suivi, mais c'est par rapport à Helldivers 2, puisque vous en avez peut-être entendu parler, c'est un jeu qui a pas mal de succès actuellement sur Steam. Je vous avoue que je participe grandement à ce succès aussi. Pour pas dire que j'y passe mes nuits, mais bon, ça c'est un autre sujet. Cependant, les petits malins ont voulu, ont proposé des versions de Helldivers 2 avec d'autres images et un prix plus intéressant. Et voilà, donc ça a causé quelques petites arnaques en volant l'image de marque que s'est fait le jeu en très peu de temps. Donc si vous voulez Helldivers 2, faites bien attention de le payer au bon prix. S'il y a une promo, c'est qu'il y a a priori un problème.
C'est fou quand même qu'on ait ça qui passe entre les mailles de Steam. Je sais pas comment ils contrôlent, mais...
Il n'y a pas de contrôle, il y a tellement de jeux.
C'est ça.
C'est au signalement, les contrôles.
Là, les mecs ont été forts.
En tout cas, moi, quand j'étais voir, ils n'y étaient plus. Hein.
Alors, ils ont pas eu très bien à le sortir.
C'est peut-être après, tu sais, t'as plein de plateformes qui vendent des clés un peu au rabais sur Internet, sur PC, qui fait que t'as... le démat est généralement moins cher que le physique sur PC. Ça ne m'étonne pas de voir des jeux récents bradés. Mais là, je crois que c'était 7€ à la place de 40. Donc là, il faut quand même...
Ouais, ça... c'est pas rien. Yes.
Allez, moi, j'ai quelque chose pour vous. Bon, c'est une petite news en vrac. Hein. C'est une news qui va plaire à Rowling aussi, quand même, parce que ça va parler du PS Portal.
Ah, j'ai tellement hâte d'en prendre un.
La place en bon
Ah oui, j'ai vu ça à des prix indécents.
C'est ça, mais ouais, surtout qu'en plus il y a des réappro quand même régulièrement. Mais je serais curieux quand même d'avoir les prix, enfin les prix, pas les prix, mais les chiffres de vente. Parce qu'on n'entend pas parler, c'est toujours en rupture, mais on n'entend jamais parler des prix, des stocks. Les ventes de
stock. S'ils en font 200, et oui, ils en vendent 200, mais c'est quoi la base? C'est quoi le nombre de stocks? Alors, c'est une rupture, c'est une chose, mais...
Donc, et du coup, ça a été hacké. On a déjà hacké le PS Portal. Donc là, ils ont fait tourner, ceux qui connaissent PSSPP, c'est l'émulateur PSP dessus. Mais bon, on n'ira pas beaucoup plus loin parce que niveau hardware, en fait, c'est pas très puissant, hein, comme tout le monde sait. C'est prévu que pour jouer à la PS5, donc c'est pas le top. Mais on a quand même réussi à hacker le PS Portal. Donc peut-être future console pour du rétro gaming.
Ah, on peut jouer à Metal Gear Acid. Cool.
C'est pas mal ça.
Exact.
Très fort.
Ils ont fait tourner apparemment un peu tous les jeux. Ça marche plutôt bien. Mais à continuer quoi. Il continue.
J'ai vu que Nintendo attaquait en ce moment sur l'émulation avec Yuzu.
L'émetteur Switch Yuzu est attaqué par Nintendo. Ça me surprend qu'ils attendaient aussi longtemps d'ailleurs pour attaquer.
Non, c'est étonnant même qu'ils attaquent, puisqu'il y a une sorte de jurisprudence aujourd'hui sur l'émulation. Tu as le droit d'émuler donc.
Oui, tant que tu as le jeu en physique avec toi, tu peux émuler, oui, bien sûr.
Et c'est de la rétro-ingénierie, tu as le droit de faire de la rétro. Donc,
Final Fantasy VII, on a le jeu Rebirth qui est sorti il y a peu, qui a sur PS5 un très gros succès, comme on l'attendait. Et donc en parallèle, pour surfer sur ce succès, ils ont annoncé que la version longue de Final Fantasy VII Advent Children, donc c'est une version longue qui ajoute une demi-heure de plus que le film de base, avec des petites scènes en plus, allait arriver au cinéma pour les fans comme moi. J'avais bien aimé le film, donc j'ai dit pourquoi pas le revoir en version longue, parce que je n'ai pas vu en version longue. Sauf que la douille, c'est qu'il est dans mon cinéma à côté de chez moi, il est annoncé en tant qu'événement spécial. Alors il n'a rien de spécial, il n'y a pas d'intervenant, il n'y a pas de soirée après, il n'y a pas d'échange avec les intervenants. Au prix de 15€ le film, au lieu de 10 pour une place normale. Donc, autant dire que je n'irai pas le voir. Moi je trouve qu'une place de cinéma à 15€, c'est pas des salles high, c'est pas des salles, c'est une salle normale, lambda, sans rien de plus. Je trouve que c'est extrêmement cher payé. Qui plus est pour un film de 2009. C'est bien qu'il passe au cinéma, mais pas à des prix comme ça. Enfin, je veux dire, je trouve ça vraiment dommageable.
Parce que j'avoue que moi, le film hype pas mal. Enfin, je l'ai en louré à la maison, mais j'avoue qu'au cinéma, ça doit avoir son petit charme. C'est ça. Le prix des places, ça fait pleurer. Mais bon, ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma.
Shin Godzilla, je t'avais dit, où t'avais que quelques salles en France qui l'ont fait sur une semaine, et à chaque fois c'est des séances spéciales à plus de 15 balles. Moi je sais pas, je voulais voir le film, mais non, en fait.
Ah, c'est chiant, puis là il passe à des horaires, c'est un samedi à 22h et un dimanche à 17h. Enfin bon, peu importe, quand on veut le voir, mais le 16 mars et le 17 mars, voilà. Et par contre c'est en VOSTFR, ça c'est bien, c'est pas en VF, moi je préfère. Mais bon, quand bien même, si vous voulez aller le voir au cinéma, les cinémas CGR le diffusent. Au prix de 15€ dans mon cinéma, à voir avec le vôtre s'il y a d'autres prix, mais je trouve ça bien de le diffuser, mais pas à ce prix-là, malheureusement.
Nous, chez les Pecno, on n'a pas de CGR. C'est le problème.
Ouais,
et en plus, on paye l'essence.
Ouais, c'est ça.
Ok. Moi, j'ai une petite news, mais c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Là, c'est le journal des mauvaises nouvelles, puisque... Si je vous dis Eiyuden Chronicle, vous me dites quoi?
Undread Heroes.
Ou peut-être, mais surtout Suikoden, puisque c'est le papa de Suikoden et Suikoden 2 qui est parti de chez Konami pour aller faire son propre jeu qui est Eiyuden Chronicle, qui va sortir très très prochainement. Mais malheureusement, il ne verra jamais la sortie de son jeu, puisque Yoshitaka Murayama est décédé cette semaine. C'est triste, mais voilà, c'est les choses qui arrivent. Il avait un certain âge. Il était surtout très malade. Et il n'a pas pu vivre jusqu'à la sortie de son prochain jeu. Et voir s'il allait pouvoir concurrencer aussi Suikoden 2, puisque son remaster est censé sortir très prochainement. Il a, par le passé, également fait Suikoden 3. C'est arrêté à ce moment-là chez Konami. Donc voilà, j'en dis pas plus, puisque bon, je pense que ceux qui suivent les Suikoden et Eiyuden Chronicle voient très bien qui c'est. Et voilà, rest in peace, comme dirait.
Yes. Salut l'artiste. Et je rebondis là-dessus en parlant du studio Toys for Bob. Je ne sais pas si vous connaissez ce studio. C'est ceux qui ont fait Crash Bandicoot The Insane Trilogy, Crash Bandicoot 4 dernièrement, et Crash Team Rumble. Et en fait, ce studio-là vient d'annoncer vouloir prendre son indépendance et quitte Activision et Microsoft après le rachat. Donc, je ne sais plus s'il y a une date de prise d'effet pour reprendre leur indépendance, mais c'est pas une rumeur, ça va être fait. Et du coup, en découle le jeu Crash Team Rumble, qui était un jeu avec des Battle Pass et autres. Ils ont annoncé que le support du jeu allait être arrêté, ce qui ne... vu que le studio quitte Activision et Activision ne souhaite pas poursuivre le développement du jeu. Donc c'est-à-dire que le 4 mars prochain, le Battle Pass, le dernier, sera gratuit. Il n'y aura plus de mise à jour, plus de support du jeu. Et donc la fin, après cette saison 4, sera la dernière. Alors après, moi, Toys for Bob, j'aimerais bien qu'ils nous sortent un Crash Bandicoot, oui, parce que le 4 est quand même très bon. Mais surtout, c'est aussi eux derrière les Spyro. C'était une licence qui, je n'ai pas trop compris pourquoi elle n'a pas eu tant de suite par rapport à son succès. Est-ce qu'ils préparaient un...
Mais qu'on n'a pas vu depuis longtemps, oui. Ah ouais, là, on a vu Spyro, les jeux qui sont sortis, là... Avec les figurines, j'ai perdu le nom.
Oui, avec
mais
Skylanders.
C'est pas un Spyro pur. Oui, voilà, Skylanders.
Ouais, donc à voir ce qu'ils vont faire de ces licences-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils... Enfin, ce qui est bien, ils quittent Activision, mais ils ont leurs IP à eux, quoi. Ils partent avec leurs IP. Donc, ils pourront devenir indépendants et voir ce qu'ils vont faire. Donc, Toys for Bob, ouais, à surveiller, là, dans les prochains mois, prochaines années. Ce qu'ils vont pouvoir nous développer.
À voir.
Et voilà.
Bon, écoutez, je vous propose de passer à la sortie des chroniqueurs, si personne n'a d'autres news.
C'est bon pour moi.
C'est bon pour toi, ben voilà. La sortie des chroniqueurs, alors.
Pour une poignée de gamers, le podcast.
Bien, vas-y, Sagas, toi, qu'est-ce que t'attends pour cette semaine, les semaines à venir, plutôt.
Moi, je vais faire le gros lourd. Je vais faire comme il y a 2 semaines. Celui que j'attendais est sorti et c'était FF7 Rebirth. Voilà. Et je l'ai commencé.
Ouais. Mais t'as bien raison.
Et il est au top.
Ouais, bien.
Ah, ça annonce que tu. Et c'est là que tu... Bah, c'est là que tu vois la next-gen en fait.
Là, tu sors de Midgard là.
Non, franchement, c'est un jeu que j'attendais avec impatience et je suis pas déçu dès le début.
Je vais attendre un petit peu avant de l'acheter, qu'il patche un petit peu et tout. Je me dis
attendre qu'il arrive sur PC ouais.
et que le tarif descende parce que là il est quand même très cher, je trouve.
Sur 60 euros,
ouais.
60 euros,
il est à 62,
ouais, au moins cher. Hein, c'est...
Ouais, au moins cher chez les Carrefour et autres grandes surfaces.
Amazon,
ouais, ça c'est pas enfin, les prix qu'ils font, ouais, mais en tarif constructeur, il est 75, 80, non?
80. Ouais, ils abusent un
80,
peu.
80, ouais.
Non, ouais, même bien. 90, selon la version que tu prends. Bah,
ouais. Ouais, c'est dingue. Ça me... Donc oui, ce prix-là. Bon, moi, je vais attendre, comme Gab, j'attends qu'il baisse en prix, mais surtout qu'il arrive sur PC. Alors, est-ce qu'il arrivera fin d'année? Est-ce que ce sera dans un an? Je ne sais pas. Je ne sais plus le remake, combien de temps il a mis à arriver sur PC, mais c'était une bonne année. Hein.
Je vais attendre, moi, ça va être plus simple. Je vais attendre dès qu'il arrive la baisse de prix. Et puis... Surtout que je finisse Helldivers 2.
Déjà.
De mon côté, je parle de, on a déjà parlé tout à l'heure en préambule, mais sur Nintendo Direct, mais c'est Unicorn Overlord, évidemment, pour moi la grosse sortie de cette semaine, le prochain jeu de VanillaWare. Encore une fois, si vous voulez voir ce que c'est, il y a la démo sur le Nintendo Store. C'est de l'action RPG, mais enfin non, c'est même pas de l'action RPG, c'est du tactical RPG. Un peu dynamique avec une DA somptueuse. Le scénario, je ne sais pas ce qu'il vaut, ça a l'air assez classique, difficile de dire. Ce que j'adorais, c'est les voix, on retrouve les voix de Triangle Strategy. La voix de Bénédicte est de retour, elle est juste excellente. Donc voilà, je pense que ce sera un très bon jeu. Je ne sais pas si on pourra le tester, mais pareil, c'est un jeu que je ferai sûrement cette année, quoi qu'il en soit.
Il sort là, il sort ce 8 mars, là, donc. On y est, ouais.
Ah, on est dans la sortie. Hein.
Donc ça, c'est des mots, moi aussi.
Pour l'instant, il est vendu 60 euros, plateforme.
D'accord, oui. Ça t'en a attendu un petit peu. Mais oui, le potentiel a l'air bon. Faut que je fasse la démo. J'ai fait le tout début, là, faut que je continue.
Ouais, je vais m'y mettre aussi. Ça m'intéresse.
Yes. Moi, je vous parle d'une ressortie, enfin d'une réarrivée, comment dire. Sur PS5, ce 19 mars, on a Hi-Fi Rush qui arrive. Alors, Hi-Fi Rush était un jeu qui était sorti sur Xbox il y a une bonne année, qui était exclu à Xbox. Et il fait partie de ces quelques jeux qui vont aller à la concurrence, donc Grounded sur Switch. Et là, on a Hi-Fi Rush qui arrive sur PS5. Alors, si vous voulez pas payer sur Xbox ou PC via le Game Pass, je vous le conseille fortement. La DA est sympa, c'est un jeu où il faut jouer avec le rythme, jeu d'aventure, d'action. C'est graphiquement, ça fait le taf, c'est efficace. Le gameplay est vraiment sympa. L'histoire est un peu déjantée. J'avais passé un très très bon moment sur Xbox à l'époque. Donc, ouais. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment sur PS5 de mettre les doigts dessus. Ouais. Le 19 mars. Hi-Fi Rush.
Écoute, je suis un peu ton avis. Super beau jeu, super bonne musique. Que du bon.
Mmh. Que du bon. Et puis même, si vous n'avez pas le sens du rythme comme moi, le jeu reste jouable. Vous jouez un rythme, mais c'est pas punitif.
C'est pas punitif, non. C'est juste que visuellement, quand tu réussis, ça en met plein la figure. Et puis,
ah ouais, c'est ouais, ça. C'est... Trop bien.
Juste réussir, quoi.
Voilà. Bah, mais messieurs, merci pour cette actu.
Et merci à vous.
Il y a quand même beaucoup de choses.
Oui, merci. Oui.
Ah ouais, et moi, j'attends quoi?
Bon, rien. Déjà, il faudrait que tu viennes.
Moi, j'attends Star Wars. Les gars, Star Wars.
J'ai cru qu'il s'était endormi, Riri.
Non, frérot, je vous écoute attentivement, moi, parce que vu qu'à chaque fois, je dérive, donc du coup, je laisse les gens pas de temps parler.
Mais dans Star Wars, quel Star Wars? C'est fini, Star Wars? Y a plus
rien. Non, ils sortent Battlefront classique. Sur Switch et PC et console. Hein. C'est Battlefront 1 et 2.
Et tu trouves que c'est mieux que les Battlefront récents qu'ils ont fait?
Bon, moi j'aime bien les Battlefront, donc parce que j'aime Star Wars, mais
Les Battlefront, moi j'aime bien.
Les Battlefront 1 et 2, ils sont les récents, je les avais trouvés excellents malgré tout.
Ils sont excellents. Moi, je les ai tous aimés. Donc après, je suis un client conquis. Mais surtout qu'en ce moment,
sur Switch, ça pique les yeux sur Switch.
Sûrement, ça doit piquer les yeux. Ouais, mais bon après,
Battlefront, ça piquait déjà les yeux sur PSP. Hein.
Non, les gars, un peu sérieux. Vous comparez toujours des trucs, les frères. C'est quelqu'un qui joue sur Switch, il joue avec ce qu'il peut déjà. Donc je le regarde pas. Il faut être sérieux, les mecs. La Switch, c'est du Mario Kart, des dessins animés. Ok, c'est cool. Franchement, ça passe. Mais une fois qu'on parle jeux vidéo de monsieur qui sont sur multiplateforme, la Switch, ça compte pas. C'est celui qui me dit ouais, la version Switch, elle est mieux que la version PS4. Même PS4, je dis même pas PS5. Hein. Bon bah. J'espère qu'il a une bonne mutuelle, le frère, tu vois. Ou la sœur, parce que...
Bah, faut croire que non.
Ah ouais, parce que franchement...
La soirée, quoi, c'est clair.
Hein ?
C'est épileptique, de toute façon, avec un jeu pareil sur une telle console.
Bah oui.
Non, on exagère parce que Battlefront 1 et 2, ce que je disais, ça tournait sur PSP. Ça peut pas être pire que sur PSP.
Mais c'est... même moi, sur PSP, tu joues pas à Battlefront.
C'est marrant, après, ça.
Moi, j'ai joué sur PSP, t'es dur, hein.
Ouais, désolé.
J'étais jeune.
Ouais, je te jure, je suis désolé. Ça arrive. Ah,
mais... Il arrive le 14 mars sur Switch.
Eh ben, il y a
est-ce
ça.
Est-ce que vous serez capable de découvrir le prix du jeu?
35€.
39,99€.
Non plus.
Combien?
J'aurais dit 29,99€.
35€ et 1 centime.
Ah, voilà.
C'est quoi ce centime plein d'humour. Qui traîne?
En fait, 35€. C'est Pierre Belmar, mais en fait, c'est Philippe Brizoli avec qui on a affaire.
Ah ouais,
non, attends. Ou pas
croix. Le prix exact. Mais c'est un tout pile.
Et en ce moment, je joue à un jeu que je découvre. C'est Destiny, les mecs. Il est mortel. J'ai trouvé un pack de DLC à 36€ avec l'intégralité de tous les DLC. J'aurais pu l'avoir à 18, le 2. Mmh. Et franchement, il est mortel, le jeu. Ah, il est mortel.
Il est super bon.
Si
ça te plaît, mec, tu devrais tester Helldivers 2.
Bah, Helldivers 2, j'y ai joué, tu devrais me connaître. Hein. Donc, j'y ai joué Helldivers 2, j'ai pas aimé. J'ai joué la version PS5, qui est catastrophique, je trouve, d'un point de vue graphique. Je sais pas comment les gens ils osent dire que c'est beau. Mais c'est sympa, ouais. Mais moi, Destiny.
C'est en voie du lourd, hein, visuellement.
Hein la sur PC
ou... Ah ouais, sur PC, c'est magnifique.
Ouais, je veux bien te croire, faudrait que je l'essaye. Mais Destiny 2, franchement, les mecs, pour ceux qui... Ben là, vous avez les DLC pas chers un peu partout. Parce qu'il y a eu un retard sur la dernière saison. Normalement, qui devait sortir là, mais ça sort en juin. Et ça vous laisse largement le temps de tout faire. Et franchement, ça envoie du lourd. Moi, j'aime bien. Je suis tombé amoureux. Bah ouais, mais bon, moi, j'y jouais pas tant que ça.
Après, c'est vraiment particulier comme jeu. C'est un looter-shooter.
C'est un Borderland.
C'est
ça, les Borderlands, c'est de la balle.
Tu vois, Helldivers 2, je trouvais qu'on retrouvait pas mal de sensations à la Destiny. Mais l'aspect coop était beaucoup plus prononcé que dans la Destiny où des fois, t'es trois à faire un donjon. Et franchement, tu t'occupes pas de ce que fait ton copain à côté, quoi. Tu t'essayes juste de survivre et de faire le maximum de dégâts. Et je trouve ça de...
On m'a dit que les raids étaient très difficiles et ça demandait pas mal de coordination, donc ça, j'attends de voir avant de finir
le jeu. C'est vrai, mais ça doit te délire, les raids.
C'est ce qu'on m'a dit, donc j'attends.
Mais c'est aussi... Enfin, voilà, c'est aussi notre organisation. Est-ce que t'as envie de rentrer dans des trucs où faut te connecter à des heures fixes, avec des gens toutes les semaines, voilà. C'est un autre délire.
Donc, ouais, c'est plus Star Wars, en fait. Star Wars Battlefront classique. On va voir, on va... Parce que j'essaie de relancer le dernier Battlefront. Enfin, pas le dernier. Le Battlefront de 2005. Les serveurs, c'est une galère à trouver quelqu'un et tout. Donc là, normalement, on va retrouver du monde. Et on va un peu plus s'amuser, je pense.
Oui,
Walou.
Eh bien, merci tout le monde. Je vous propose de se retrouver dans 2 semaines. Et je vous rappelle qu'on peut nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire Discord, YouTube... Non, pas YouTube, c'est pas un réseau social.
Non, pas... Cherchez, ouais. Vous ne trouverez pas. Mais...
Elle-moi, en ligne, c'est pas le spécialiste des réseaux sociaux.
Instagram, Facebook, X. On est un petit peu sur Threads et sur Blue Sky, mais je pense que ça n'a pas duré. Mais oui, principalement Instagram, Facebook, X, vous nous verrez là-dessus. Dès qu'il y a un podcast qui sort, on diffuse un petit message. Et puis Discord, bien sûr, hein, pour venir échanger avec nous.
On diffuse des petits messages, c'est ça. Merci beaucoup. Et à la prochaine.
Et ciao, bisous ciao. Tout le monde. Et ciao.
À bientôt tout le monde.
Bisous.
Bisous, bisous.
Bisous, bisous.
Sur le 4 jours.
Pour une poignée de gamers, le podcast.